grand angle.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous Marc-Aurel Barrez. Le grand angle de ce jour, Donald Trump a lancé jeudi dernier la première réunion de son Conseil de la paix à Washington pour discuter de la situation à Gaza. Ce conseil se veut aussi une plateforme de résolution des conflits mondiaux. L'initiative inquiète certains observateurs car elle pourrait marginaliser les instances traditionnelles comme l'ONU et concurrencer leur rôle dans la gestion des crises internationales. Avec nous pour en parler aujourd'hui, le secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève, Alain Jourdan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, avec cette initiative de conseil de la paix de Donald Trump, est-ce qu'on peut dire que ça affaiblit les institutions internationales comme l'ONU ?
Oui, bah, de toute façon, c'est un pilonnage en règle de tout le système multilatéral qui est opéré depuis le départ par l'administration Trump. Mais il faut bien comprendre que tout ce que peut faire Donald Trump aujourd'hui, c'est en dehors du droit international et que tôt ou tard va se poser des questions de légitimité, de conformité aux règles internationales. Là, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une démolition en règle de l'existant. On essaye de bâtir de nouvelles choses, des propositions, mais quelle valeur vont avoir ces décisions qui ne seront pas entérinées par une plateforme qui est reconnue comme telle au niveau international, ni par des traités, ni par des conventions où se retrouvent l'ensemble des pays. Donc l'ONU va très mal, le système va très mal, il y a des plateformes qui dessinent, mais pour le moment il y a rien de solide, tout ça est très fragile.
Quel sera le rôle exact de l'ONU vis-à-vis de ce Conseil de la paix ? Puisque dans une récente interview, Donald Trump a déclaré, je cite, que le Conseil de la paix supervisera l'ONU et veillera à son bon fonctionnement. Est-ce qu'on n'assiste pas, Alain Jourdan, à une mise sous tutelle de l'ONU ?
Non, mais ça c'est du Donald Trump dans le texte. Non, il va pas y avoir une mise sous tutelle de l'ONU, mais il y a une ONU aujourd'hui qui est moribonde. Il y a un système qui est complètement défait, qu'il va falloir reconstruire, et c'est pas cet organe qui va chapeauter l'ONU. Il va falloir trouver un nouvel espace multilatéral, certainement revoir les règles, et tout ça, ça pourra se faire que dans la concertation. Mais on n'en est encore pas là, on est dans cette phase, on est dans le marécage, là, où tout est en train de bouger, chacun essaye de trouver sa place, mais c'est pas Donald Trump qui dictera comment ça se passera demain, parce que il n'est pas le maître du monde, il y a d'autres puissances, il y a d'autres pays, il y a des puissances émergentes, et il y a d'autres États qui vont faire valoir leurs droits aussi, il y a des règles, il y a un droit international, même si pour le moment Donald Trump s'assoit dessus, tôt ou tard, elles reviendront dans la figure de tout le monde.
En quoi cette initiative de Donald Trump, elle s'écarte des instances multilatérales traditionnelles ? En quoi est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est pas vraiment plus un retour à la loi du plus fort ?
Mais c'est le fait du prince. Enfin, je veux dire, c'est Donald Trump qui décide d'autorité, de quelque chose. Ça peut pas marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. C'est de la com, c'est de la poudre aux yeux. Alors, je comprends parfaitement les pays qui s'y retrouvent, parce que eux, ils font de la diplomatie, ils jouent leurs intérêts, et c'est totalement légitime qu'un certain nombre de pays rentrent dans son processus. Mais c'est un processus qui n'a pas d'avenir. Qui n'a pas d'avenir parce que il ne repose pas sur un accord international, sur des bases solides, sur une charte. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ça met surtout en lumière qu'il faut reconstruire tout le système multilatéral qui aujourd'hui est à plat. La loi du plus fort, ça peut marcher qu'un moment. Ça ne peut pas aller dans la durée. Et la loi du plus fort, elle amène à la guerre, elle amène pas à la paix.
Quel est votre diagnostic du système onusien ? Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement majeur ?
Ah non, mais c'est plus qu'un affaiblissement, c'est un effondrement du système multilatéral. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour préserver ce qu'il y a au sein de la Genève internationale, c'est comme un plâtre sur une jambe de bois, parce que malheureusement, c'est pas la Suisse. C'est pas les autorités suisses, malgré tous les efforts et tout l'argent qu'elles mettent, qui vont sauver ce système multilatéral. Ce système multilatéral renaîtra de ses cendres à un moment donné, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. On aura besoin d'une sorte de nouveau Yalta, mais sur d'autres bases et dans un monde qui a complètement changé. On est dans une phase, on voit bien, d'accélération aussi avec les nouvelles technologies, avec les enjeux qui sont ceux du réchauffement climatique, les enjeux de santé, qui sont des enjeux qui n'ont pas de frontières. Et donc, on s'emploie à nous remettre des frontières, des barrages, à un moment où les problématiques sont universelles et touchent tous les pays. Donc, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une parenthèse, même si certains prétendent le contraire. Et c'est pas non plus le signe d'une Amérique qui est forte. C'est le signe d'une Amérique qui est faible. Donc tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en ce moment ne va pas durer.
On le sait, les États-Unis se sont longtemps servis de l'ONU pour faire avancer leurs intérêts. Aujourd'hui, on voit qu'ils s'attaquent à l'ONU, aux organisations internationales. Leurs intérêts sont devenus divergents aujourd'hui. Il n'y a plus d'intérêt pour les États-Unis à collaborer avec l'ONU.
Non, mais on vit dans un moment complètement aussi schizophrène. Vous avez des diplomates américains qui, pendant 30 ans ou 40 ans de leur vie, l'ont dédié au développement du système multilatéral. Et en quelques heures, Trump a donné un coup de pied là-dedans. Vous avez des diplomates américains qui sont sous Tranxène, sous médicaments contre la dépression. Non, c'est cauchemardesque ce qui est en train de se passer. Et ça ne peut pas durer comme ça. En revanche, il n'y aura pas de retour en arrière. On va aller vers quelque chose de nouveau. On est dans cette phase de transition, on est dans cette phase de chaos où chacun s'observe, où chacun essaye de mesurer ses forces, mais on ne pourra pas rester dans cette situation comme ça. Ça ne va pas se figer maintenant, ça se figera plus tard quand on aura trouvé un point d'équilibre. Et on est très loin aujourd'hui d'avoir trouvé le point d'équilibre.
On le sait au niveau financier que l'argent américain était très important dans le budget de l'ONU, fondamental même. Quelle est la proportion du retrait des États-Unis et quels sont ses effets directs sur l'ONU ?
Alors la proportion, il faut voir pas se passer, mais c'est colossal les effets du retrait américain sur les budgets de l'ONU, sur les budgets généraux, sur les agences, etc. On parle de l'ordre de 20%, mais à un certain endroit c'est plus, d'autres c'est moins. Il y a le retrait de l'OMS, il y a le retrait de certaines agences. C'est colossal et les conséquences. Alors nous on voit les conséquences pour nous à Genève en termes d'emploi. Ok, c'est pas le plus grave. Ce qui est plus grave et ce qu'on ne voit pas, c'est que par exemple sur les budgets du HCR, sur les budgets de l'humanitaire, les conséquences c'est quoi ? Ce sont des camps de réfugiés où on n'amène plus à manger, on n'amène plus à boire et où des gens sont en train de mourir à cause de cette politique complètement dingue. C'est ça qu'il faut voir. Aller au-delà de nos petites préoccupations nombrilistes à Genève, oui, ça touche des emplois, mais les conséquences c'est que c'est des gens qui meurent sur le terrain parce qu'il y a moins d'argent. Donc c'est une financièrement c'est un système multilatéral qui est exsangue.
Alors ce n'est pas la première fois que les États-Unis s'attaquent aux instances multilatérales, il y a des précédents, quels sont-ils ?
Non, mais il y a eu régulièrement, et pas que sous les administrations républicaines, sous les administrations démocrates aussi. Alors, et c'est un autre problème. C'est la question du coût de fonctionnement du système multilatéral. Et là, on peut pas dire que ceux qui critiquent les coûts de fonctionnement de ce système aient totalement tort, parce qu'on le sait. Il y a quelques années, quand Antonio Guterres était à la tête du Haut Commissariat réfugiés, les États qui finançaient étaient très en colère, parce que sur $100, il y avait pratiquement $90 de frais de fonctionnement et seulement $10 qui allaient sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a une bureaucratie aujourd'hui sur l'ensemble du système onusien qui est très lourde, qui est coûteuse. On a des gens, des hauts cadres qui sont très très bien payés avec des salaires qui sont considérables et puis à la base, des fonctionnaires de base qui eux effectivement sont assez mal payés. Et c'est des machines très lourdes, très coûteuses et très honnêtement, la vérité c'est qu'un certain nombre d'États qui critiquent Donald Trump sont pas non plus mécontents de voir Donald Trump faire le ménage d'une certaine manière, hein, parce que là, il y a une grande hypocrisie aussi.
À quand remonte l'affaiblissement de l'ONU et pourquoi ? Parce que là, on le voit bien avec Donald Trump, on a des coups de boutoir plutôt en chaîne, mais est-ce qu'on peut faire remonter cet affaiblissement plus tôt ? Et est-ce que Trump est différent des autres présidents américains vis-à-vis de sa relation avec les instances internationales ?
Oui, non, il y a quand même une différence parce que Trump ne respecte pas un certain nombre de traités et de conventions internationales alors que ses prédécesseurs sont prêts quand même à les respecter et au pire à donner l'impression qu'il les respectait. Il y a quand même une différence majeure. L'affaiblissement du rôle de l'ONU, moi je dirais que ça a pu commencer avec la guerre en Irak Ça a été par séquence, par épisode, et puis par les différentes structures. On a par exemple la conférence du désarmement qui est à Genève, qui est dans l'impasse depuis 25 ans, qui ne produit plus rien et qui aujourd'hui est complètement tombée en désuétude. Je suis désolé. Donc ça, c'était quand même un outil puissant, important, qui était à l'origine de traités sur le désarmement qui ne fonctionne plus. Genève avait essayé de sauver les meubles avec le Conseil des droits de l'homme. Enfin bon, les droits de l'homme aujourd'hui, tout le monde s'assoit dessus. Les autres agences, alors il reste, oui, les agences spécialisées, très techniques sur les télécoms, sur les brevets, mais genre, même ça aujourd'hui, ces organes de régulation sont remis en cause, donc c'est l'entier du système qui est fragile. Mais dis donc, ça a commencé depuis un moment, l'affaiblissement de l'ONU. Hein.
Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que à moyen terme ou à long terme, on pourrait voir la disparition de l'ONU?
Mais moi, je pense pas. C'est pas une disparition, une transformation, une mutation. On va être obligé de garder un système multilatéral. Le monde en a besoin. En revanche, quelle va être sa forme? Il est possible aussi que ça soit une forme un peu plus éclatée. On sera un peu moins centralisé. Genève n'aura plus la main mise comme par le passé sur l'entier du système. Ça risque d'être un peu plus éclaté, un peu plus dispersé. Mais il y a des questions centrales qui vont être tranchées, comme celle du Conseil de sécurité, qui bloque tout le fonctionnement de l'ONU. Donc, il y a des réformes profondes, il y a des questions de fond et qui ne vont pas se régler en un jour. Mais de toute façon, le monde aura besoin d'un système de gouvernance mondiale, celle multilatérale, où tout le monde s'y retrouve. Et ça prendra du temps. Et pour le moment, on est vraiment au creux de la vague.
Merci Alain Jourdan.
Merci.
Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Observatoire géostratégique de Genève, mais aussi rédacteur en chef du média La Tribune des Nations, aussi basé à Genève. Très chers auditeurs, merci pour votre écoute et très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.